Nous arrivons au terme de l'Apocalypse. Du moins, nous arrivons au terme du commentaire de l'Apocalypse. Mais nous ne sommes pas encore au terme de la réalisation. Alors, je crois qu'on est arrivé au chapitre 20. Hein?
C'est ça.
On avait déjà un peu commencé, mais je crois que c'est bon de le reprendre. Chapitre 20 et 21, les deux grands, 21 et 22. 20, 21 et 22. Et je vis un ange descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, l'antique serpent, qui est le diable et le Satan. Il le lia pour 1000 ans. Alors ça, vous savez combien ça a fait couler d'encre. Évidemment, c'est intéressant de savoir quand Satan est en prison pour 1000 ans, on peut danser pendant ce temps-là. Il a été vraiment dans... Alors voyez bien, ça l'Apocalypse souligne, je l'ai déjà dit, cette triple manière de regarder l'ange déchu. Le dragon, le serpent, l'antique serpent et diable. Donc l'anti-trinité. Puisque le dragon c'est par rapport au Père, le serpent c'est la rue, c'est par rapport au Verbe, et le diable et Satan c'est par rapport à l'Esprit Saint. Et il le lia pour 1000 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile à préciser. Est-ce le mystère de l'Immaculée Conception? Le mystère de l'Immaculée Conception, c'est évident que le démon est lié par rapport au mystère de l'Immaculée Conception. Et parce que 1000 ans, vous comprenez, 1000 ans, c'est symbolique. Tous les chiffres dans l'Apocalypse sont symboliques. Il ne faut pas compter. Ça veut dire une plénitude. Ça veut dire ça, 1000 ans. Alors, Marie, c'est quand même celle qui est la reprise de tout. Tout est repris par Marie. C'est une recréation qui se fait en dehors du démon. Et le démon n'a jamais pu l'atteindre. Et donc toute la vie de la Très Sainte Vierge. Ça peut être ça. C'est pas du tout impossible. Et ça peut être aussi toute la descendance de la femme. Alors, c'est moins palpable et moins visible. Parce que la descendance de la femme, elle reste encore proche et attaquable par le démon. Il n'y a pas de... Mais ça peut être ça, ça peut être dans l'Église, la vie contemplative pure, comme la Chartreuse, sont des lieux où le démon, d'une certaine manière, n'approche pas, n'entre pas. Alors on peut dire qu'il est comme déchaîné, qu'il est comme enchaîné. Mais vous voyez que tout ça prend sa signification plénière en Marie. Alors moi je comprends très bien que tant que le dogme de l'Immaculée Conception n'était pas proclamé, les théologiens ne savaient pas très bien comment comprendre. Mais le dogme de l'Immaculée Conception étant proclamé, nous avons là une grande lumière qui nous montre un lieu dans lequel de fait le démon n'a pas pénétré. Et Milan veut insister sur la plénitude de ce chef-d'œuvre de Dieu. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella sur lui pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Alors, évidemment, ces 1000 ans ne correspondent pas donc à un enchaînement absolu, ce qui serait du reste bien en montrant que de fait c'est vrai, même la descendance de la femme, le démon peut l'attaquer. Même des contemplatifs, le démon peut les attaquer.
C'est géographiquement absolu pendant un temps donné, pourtant. Enfin, d'après le texte.
Oui, mais géographiquement absolu pendant tout le temps que Marie était sur la terre. Il y avait les 1000 ans. C'est un temps. 1000 ans. Pour Dieu, une journée est comme 1000 ans.
Oui, d'accord, mais...
Vous voyez ? Et donc, symboliquement, c'est pas géographique, c'est plutôt selon le temps. Que géographique. Quoi ? Ah, il a mis toutes les nations et il le jeta pour l'abîme qu'il ferma et scella sur lui. Alors ça, c'est l'abîme, donc le démon, pour qu'il n'égare plus les nations. mais qu'il n'égare plus les nations, ça veut dire le rôle particulier que peut jouer Marie sur toutes les nations. Vous voyez ?
Mais des noms n'ont jamais été enchaînés.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ils n'ont jamais été enchaînés depuis que.
Depuis.
Depuis que l'histoire.
Oui, sauf l'Immaculée. Sauf l'Immaculée. Pour l'Immaculée, il est enchaîné. Et il est vraiment comme enchaîné, puisqu'au fond, il est vis-à-vis de quelqu'un qu'il ne peut pas atteindre. Et que Marie était dans le temps. Vous voyez ? Elle était dans notre monde. Vous voyez, c'est une interprétation que je donne, parce que je secoue dans tous les sens, et j'avoue que je n'en vois pas beaucoup. Le millénarisme était condamné, donc on ne peut pas dire qu'il y aura un moment, 1000 ans, où, et ça fait partie de toujours un peu les désirs qu'on a, de dire bientôt après tout ça, on va y avoir un peu de calme, n'est-ce pas ? Après les élections, on aura un peu de calme, et puis ça recommence indéfiniment, n'est-ce pas ? C'est vrai, ça recommence indéfiniment. Alors, ça reste, réfléchissez-y. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella sur lui pour qu'il n'égare plus les nations. Venez, je vois très bien, pour qu'il n'égare plus les nations, c'est si vous prenez matériellement, mais on peut prendre aussi spirituellement. C'est que de fait, le mystère de l'Immaculée Conception joue un rôle de lumière pour tous ceux qui sont de bonne volonté. Et les nations représentant là ceux qui sont de bonne volonté, jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Après cela, il doit être délié pour encore un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus. Il leur fut donné de juger. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Alors vous voyez, tout ça c'est très délicat. C'est pas commun de bien saisir ça. Alors, et je vis des trônes. Ils s'assirent dessus. Ils furent donnés de juger. C'est comme la participation à la vie même et à l'autorité même, le trône représentant l'autorité, à l'autorité même de Jésus. Il leur fut donné de juger. Et je vis aussi des âmes de ceux qui avaient été décapités, donc ça c'est les martyrs, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et n'avaient reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils reprirent vie, oui, les décapités, et ils régnèrent avec Jésus pendant 1000 ans. C'est tout le mystère des témoins du Christ, c'est tout le mystère des martyrs. Alors ces martyrs, vous voyez, sont liés aux 1000 ans. C'est très curieux. Il y a comme quelque chose de particulier qui apparaît là. Ceux qui, de fait, d'une manière ou d'une autre, échappent aux attaques du démon. Moi, je crois que c'est un peu ça qui est montré. Les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Telle est la résurrection, la première. Alors, la première résurrection, c'est quoi ? C'est pas la résurrection générale. C'est pas la résurrection générale. C'est la résurrection, je crois, pour chacun d'entre nous, au moment de la mort et au moment où on est jugé. C'est le premier jugement particulier. Oui. Alors, ce premier jugement particulier est comme lié aux 1000 ans. Hein, si je regarde ce texte, il est comme lié aux 1000 ans. Comme si, au fond, ce jugement particulier, évidemment, nous fait échapper aux démons. Ça, c'est sûr. Dès que nous serons morts et jugés, nous échapperons aux démons. Le démon n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Alors, est-ce que c'est ces 1000 ans-là qui sont exprimés par cela ? C'est possible, là aussi. Oui, alors ce serait une autre interprétation, ou bien ce serait l'interprétation du mystère de Marie, 1000 ans, Et nous, au moment où on est jugé, nous participons à ce privilège de Marie d'être immaculée. Et donc d'échapper à toute l'influence du démon. Oui, les deux interprétations peuvent se faire et peuvent se comprendre. Telle est la résurrection, la première. Heureux et saint celui qui a part à la résurrection, la première. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Vous voyez comme c'est curieux, hein. C'est un passage très curieux. Ces 1000 ans, c'est un passage extrêmement curieux et difficile, du reste, à bien saisir. On y reviendra peut-être après, hein. Si vous avez des idées, hein, vous les direz, parce que c'est quelque chose de difficile à bien saisir. Et lorsque seront achevés les 1000 ans, alors évitons le plus possible l'interprétation unilatérale. L'interprétation unilatérale qui serait par mode historique est fausse avance. Tu vois, puisque c'est une lumière d'éternité sur le temps. Alors comme c'est une lumière d'éternité sur le temps, il faut le comprendre verticalement. Et donc il faut comprendre verticalement, ça dure toujours les 1000 ans. Autrement dit, chaque fois que quelqu'un pénètre dans ce millénarisme, il échappe à toutes les attaques du démon. Et le monde continue. Quand vous mourrez, quand nous mourrons, quand nous verrons Dieu, quand nous serons jugés par le Christ, nous entrerons dans les 1000 ans. Vous voyez, nous entrerons dans les 1000 ans, dans ce moment d'innocence où on échappera complètement au démon. Il me semble qu'on peut dire ça.
Et la seconde mort, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ?
La seconde mort, c'est la mort du péché. Alors elle n'existe plus. Il n'y a plus possibilité. Et c'est pour ça qu'on est innocent. Et c'est pour ça que le démon ne peut plus rien. Vous voyez ? C'est en ce sens-là. Alors quand c'est vertical, vous comprenez, il y a ce regard sur l'Église où il y a cette zone de gens qui attendent la résurrection générale. Et lorsque seront achevés les 1000 ans, le Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, les rassembler pour la guerre, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Donc, on veut nous montrer que face à ces 1000 ans ou après ces 1000 ans, alors il y a comme de nouveau une espèce d'attaque peut-être encore plus violente que celle qui montrait après. Mais ce n'est pas pour ceux qui sont dans les 1000 ans, parce qu'il n'y a plus de seconde mort. C'est pour les autres. Pour l'Église, quoi. C'est pour l'Église. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, les rassembler pour la guerre, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, et un feu descendit du ciel et les dévora. Oui, je vous ai dit, la fin est très difficile à comprendre. On voit bien ce qui est montré, c'est que dans le dernier combat, vous avez Gog et Magog, en quelque sorte, le monde est divisé en deux. Bien que les nations soient aux quatre coins de la terre, le monde est divisé en deux. Il n'y aura plus que deux forces. Je crois que c'est ça qui est montré. C'est qu'il n'y aura plus que deux forces. Plus on s'approche du terme, plus il n'y aura plus que Gog et Magog. Les rassembler pour la guerre, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur une étendue de la terre, sur l'étendue de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et un feu descendit du ciel et les dévora. Donc c'est Dieu qui vient au secours de la ville bien-aimée et du camp des saints. C'est le dernier combat, ça, c'est le combat le plus ultime. Et le dragon qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète, et ils seront torturés jour et nuit pour les éternités d'éternité. Ça, on montre bien l'enfer existe hein, pour l'Apocalypse. C'est difficile de dire que l'enfer n'existe pas. C'est encore plus difficile de dire qu'il n'y a personne dedans. N'est-ce pas ? C'est encore plus difficile. Selon l'Apocalypse, c'est net. L'enfer existe. On ne dit pas ceux qui sont dedans, mais on dit que quand même, hein, y a la bête de la terre et la bête de la mer. Alors, le Père Hostie dit ceci à propos de Gog et Magog. Dans la littérature apocalyptique et rabbinique, désignation de toutes les nations ennemies se dressant pour le dernier combat contre le peuple de Dieu. Les termes et l'idée proviennent d'Ézéchiel 38-39, où l'on présente Gog, prince du pays de Magog, et ses armées, également Ézéchiel 38-2. Alors vous voyez, dans Ézéchiel, on dit le prince Gog du pays de Magog. Ça, ça intéresse beaucoup les historiens. Puis on en fait après deux entités, Gog et Magog. Vous voyez la chose. Quoi ? C'est assez curieux. Ça, au point de vue purement exégétique, je vois très bien ce besoin de montrer dans Ézéchiel, vous n'avez qu'à regarder 38-39, vous trouvez dans Ézéchiel, si vous regardez bien attentivement, vous trouvez Gog et Magog et vous les trouvez tous les deux liés, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'assez particulier. Donc Ézéchiel, la parole de Yahvé m'advint en ces termes, fils d'homme, fixe ta face vers Gog, au pays de Magog, prince suprême de Mekhek et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, me voici contre toi, Gog, prince suprême de Mekhek et de Toubal. Je te ferai retourner, je mettrai des crocs à tes mâchoires et te ferai partir en campagne, toi et toute ton armée, chevaux, cavaliers, toutes splendidement revêtues, cohortes nombreuses, avec rondaches et boucliers, tous maniant le glaive, Perses, Couchites et gens de Pout, avec eux, tous avec rondaches et casques, Gomer et toutes ses troupes, alors et ainsi de suite. Vous voyez, ça n'ajoute pas grand-chose pour l'intelligence de Gog et Magog, n'est-ce pas ? Comme toujours, moi je crois que l'Ancien Testament n'ajoute pas beaucoup, puisque l'Apocalypse est quand même la dernière littérature apocalyptique. Donc c'est la dernière littérature apocalyptique, c'est quand même la plus intelligible. C'est beaucoup plus intelligible l'Apocalypse que Ézéchiel. Du moins, je trouve. Ézéchiel est beaucoup plus difficile à comprendre. Et je comprends Ézéchiel dans la lumière de l'Apocalypse, et non pas l'inverse. Alors, vous voyez cette chose curieuse. Hein, je note simplement, hein, on essaiera de comprendre. Et je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis, et de devant sa face, s'enfuyèrent la terre et le ciel, et ne se trouva plus de place pour eux. Alors, ce n'est pas l'anéantisation, comme on pourrait le croire, du ciel et de la terre. Non. Vous voyez bien, il s'enfuit. Devant sa face, s'enfuirent la terre et le ciel, et ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts aussi furent jugés d'après ce qui trouvait de, pardon, d'après ce qui se trouvait écrit dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qu'elle avait, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qu'ils avaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Telle est la seconde mort, l'étang de feu. Oui, on voit bien que la seconde mort ici, c'est l'étang de feu. C'est la condamnation par rapport à ce qu'on appellerait la condamnation éternelle. Oui, c'est l'enfer. Et si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Alors, c'est tout le mystère de la prédestination. Vous voyez, c'est dit là. Hein? C'est dit avec netteté et simplicité. Et si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc, vous voyez bien que Gog et Magog, c'est tout à fait ce qu'il y a d'ultime et de dernier. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épousée parée pour son mari. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, « Voici le séjour de Dieu avec les hommes, il séjournera avec eux, et eux seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, ni le deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car les premières choses s'en sont allées. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont fidèles et véridiques. » Il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. À qui a soif, je donnerai moi de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Le vainqueur héritera de cela, et je serai pour lui un Dieu, et lui sera pour moi un fils. » Quant aux peureux, aux incrédules, aux abominables et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux sorciers, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part est dans l'étang brûlant de feu, de soufre, qui est la seconde mort. Oui. L'enfer existe bien. C'est très important, hein, parce que vous savez bien qu'il est dit, hein, à propos de l'Apocalypse, nous le dirons, mais je le dis tout de suite parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et j'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles de ce livre et de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville. Et la ville sainte qui sont décrites dans ce livre. On a l'impression qu'on avait prévu toute l'exégèse moderne. Hein? Alors on met un sceau montrant que, eh bien oui, on ne peut rien enlever. C'est très très curieux. Hein? Parce qu'on ne dit pas ça du tout pour l'évangile. On ne dit pas ça du tout pour les épîtres. Pourquoi? Parce que les évangiles et les épîtres donnent la vie de l'Église, qui sont portés par la tradition. Et la tradition est plus que la lettre. Tandis que dans l'Apocalypse, il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas une tradition apocalyptique. L'Apocalypse, c'est la lumière d'éternité dans le temps. Et nous ne la possédons pas. Donc il n'y a pas de tradition. Alors c'est très très beau, parce que ça montre, vous voyez, c'est les deux choses, hein. On parle souvent de la religion du livre et de la religion de l'esprit. la religion du livre, on voit bien, c'est tout les musulmans, c'est la religion du livre. On ne peut rien retrancher. Il n'y a pas de tradition. C'est la lettre, de façon rigoureuse. Bon, nous savons, nous, que l'évangile implique une tradition. Nous savons que notre vie chrétienne implique une tradition. C'est dit dans le Concile de Trente et c'est dit dans Vatican II. Au moins un point où il se touche, hein. C'est de dire que il y a les deux sources de la révélation, c'est la lettre, c'est l'écriture, et puis la tradition.
Pourquoi est-ce que vous dites que
l'Apocalypse n'a pas de tradition?
Non, la tradition est plus importante que la lettre.
Oui, la tradition, parce que la tradition enveloppe la lettre. L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. La vérité tout entière. La tradition va plus loin. Vous voyez, il y a des quantités de choses qui sont contenues dans la tradition, qui sont données dans la tradition et qui ne sont pas rigoureusement dans la lettre. Le mystère de l'Immaculée Conception, le mystère de l'Assomption, le mystère de l'infaillibilité de Pierre, les trois derniers dogmes que l'Église a proclamés. Et ces trois derniers dogmes reposent sur la tradition. Ils se fondent sur l'écriture, mais c'est grâce à la tradition que je les comprends dans l'écriture. Je ne pourrais pas les comprendre autrement. Un saint Thomas, qui connaissait parfaitement son écriture, et qui avait l'écriture, et qui avait un sens de la tradition, et un sens de ce qu'on représentait le mystère de Dieu, disait que l'Immaculée Conception, non. Parce que ce n'était pas encore proclamé par l'Église. Et donc, on ne pouvait pas le découvrir à travers l'écriture. Vous voyez ? Tandis que ce qui me semble très curieux dans l'Apocalypse, c'est que dans l'Apocalypse, nous retrouvons la révélation du livre. Vous voyez ? C'est pour ça, du reste, que les musulmans ont, à l'égard de l'Apocalypse, un amour extraordinaire. Il y a une tradition mystique musulmane très étonnante vis-à-vis de l'Apocalypse. Je connais des chrétiens qui sont passés aux musulmans à cause de l'Apocalypse. Et à cause du sens que la mystique musulmane donne de l'Apocalypse. Ce serait intéressant du reste de le voir. J'ai fréquenté un peu ces hommes-là, ça m'a beaucoup intéressé. Je n'ai pas assez pour dire voilà leur interprétation. Mais je sais ça. Quelqu'un qui était très enraciné dans l'Église catholique, il est devenu musulman.
Est-ce que c'est la mystique islamique officielle ou bien ce sont des sectes musulmanes ?
C'est un peu des sectes. C'est un peu les soufis. C'est un peu les soufis. C'est pas. Vous savez, c'est tellement difficile dans les musulmans de voir le point de vue. Enfin, il n'y a pas de théologie officielle. Alors dès qu'il y a un peu la théologie, déjà tout de suite. Mais il y a une théologie musulmane, mais elle n'est pas officielle. Oui, à la différence de l'Église. Parce qu'au fond, il n'y a pas de tradition. Les musulmans n'acceptent pas le point de vue de la tradition. C'est la lettre. Alors c'est ça qui me frappe, vous voyez, que l'Apocalypse, c'est la lettre. Étant donné on ne retranche pas, on n'enlève rien, et puis c'est ça. Alors ça, c'est très important pour nous, parce que ça montre bien que ce qui nous est montré ici. Alors, continuons. Après avoir montré l'étang brûlant de soufre et de soufre qui est la seconde mort. Et tout ça, c'est réservé aux peureux, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs. Leur part est dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et vint un des sept anges qui avait les sept coupes, pleines des sept plaies, les ultimes. Et il parla avec moi, disant, ici que je te montre l'épousée, la femme de l'agneau. Et il m'emporta en esprit sur une montagne grande et haute. Vous voyez, c'est très curieux, parce qu'à l'intérieur de ce qui nous semble être toujours symbolique, Jean dit, on emporte en esprit. Oui. Alors, il y a les deux niveaux, tu vois. Il y a un niveau d'un réalisme symbolique qui fait être transporté en esprit. Parce que nous, quand nous lisons ça, nous avons toujours l'impression que nous sommes transportés en esprit. N'est-ce pas ? Nous sommes plutôt transportés en esprit, c'est pas la réalité historique qui nous est donnée. Et cependant, c'est la réalité historique. Mais vue symboliquement. Et il m'emporta en esprit sur une montagne grande et haute, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, avec la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle a une muraille grande et haute, elle a 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms inscrits, ils sont ceux des 12 tribus d'Israël, des 12 tribus des fils d'Israël. Au levant, 3 portes, au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, au couchant, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 assises, et sur elle, 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, la place des 12 apôtres, hein, une place très importante si on veut regarder le mystère de l'Église, hein, puisque c'est les 12 noms, c'est très important, parce que dans aucun traité de l'Église, on montre les 12 apôtres comme ayant 12 noms. Et pourtant, ça fait partie de l'Apocalypse. Et celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville et ses portes et ses murailles. Alors ça, c'est aussi très intéressant. C'est la sagesse, hein. Toutes les choses de Dieu impliquent la sagesse, donc impliquent une mesure, impliquent une harmonie. Tout est fait avec poids et mesure. Et la ville est quadrangulaire, et sa longueur est la même que sa largeur. Et il la mesura, la ville, avec le roseau, sur 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura sa muraille, 144 coudées. On peut la construire, hein, c'est facile. Mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Et le matériau de sa muraille est de jaspe. Et la ville est d'or pur, semblable à du verre pur. Les assises de la muraille et de la ville sont parées de toutes pierres précieuses. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de hyacinthe et la douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la ville est d'or pur comme de verre transparent. Alors vous voyez, tout se symbolise des pierres, tout se symbolise pour montrer la lumière. Et une lumière brûlante, celle des pierres, pour montrer que cette lumière est une lumière liée à l'amour. C'est une lumière d'amour, c'est pas une lumière éclatante, c'est pas une lumière métallique. Et tout est structuré comme une œuvre architecturale. Vous voyez, il y a beaucoup d'œuvres architecturales dans l'Écriture, hein, depuis l'Arche de Noé. Il y a une œuvre architecturale, et qu'on retrouve la dernière, c'est ici. Alors là, c'est tout un long symbolisme du temple. C'est le symbolisme du temple. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire justement que c'est le lieu consacré à Dieu, c'est le lieu de l'amour, c'est le lieu où vraiment tout est saisi et pris par Dieu. Il n'y avait pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et sa lampe, c'est l'agneau. Ça, c'est aussi très touchant et très grand. La seule lampe, c'est l'agneau. C'est Jésus dans la gloire. Alors, le sanctuaire, vous voyez, il n'y a pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. C'est-à-dire, c'est le sanctuaire, c'est le Saint des Saints. C'est le Naos, c'est le Saint des Saints. Quand au moment où Jésus indique, après qu'il a renvoyé promener les vendeurs et les changeurs et tous ceux qui étaient là dans le temple, Jésus dit « Détruisez ce Naos, et en 3 jours je le relèverai. » Le Naos, c'est le Saint des Saints. Et donc le Saint des Saints, c'est le mystère de l'agneau, et c'est aussi le mystère de Jésus. Je veux dire, c'est le mystère aussi du Seigneur. Et je ne vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la victoire de Dieu l'a illuminée. Et sa lampe, c'est l'agneau. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre lui apportent leur gloire. Et jamais ses portes ne seront fermées le jour, car il n'y a pas de nuit. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. À jamais n'y entrera rien de souillé, ni celui qui pratique l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui se trouvent inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Donc on voit bien là encore, de nouveau, le mystère de la prédestination, ceux qui sont choisis, ceux qui sont élus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors là, je crois qu'on peut dire que c'est le mystère de Marie aussi, hein. On l'a déjà vu, c'est le mystère de l'Immaculée. Et au milieu de la place de la ville et de la part et d'autres du fleuve, un arbre de vie, fructifiant 12 fois, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses esclaves lui rendront un culte. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'ont pas besoin de lumière, de lampe, ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu luira sur eux. Ils régneront pour les éternités d'éternité. Ça, c'est grandiose de montrer qu'au fond, c'est le mystère de Dieu qui est tout pour tous. Et le mystère de l'agneau. Enfin, c'est exprimé non pas, vous voyez, on ne l'exprime pas en vision, comme les théologiens le montrent, comme la vision de la face à face. Vous voyez que c'est beaucoup plus communautaire. C'est tout un aspect communautaire qu'on montre, hein. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et il me dit, ce sont des paroles fidèles et véridiques. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles et la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui entendais et voyais cela. Et lorsque j'eus entendu et vu, je tombai pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait cela. Il me dit, garde ton bien. Je suis un esclave comme toi et tes frères, les prophètes et ceux qui gardent la parole de ce livre devant Dieu. Prosterne-toi. Il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que l'injuste pratique l'injustice encore, que le sale se salisse encore, que le juste pratique la justice encore, que le saint se sanctifie encore. Voici que je viens bientôt et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son amour, son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour qu'ils aient pouvoir sur l'arbre de vie et entrent dans la ville par les portes. Dehors les chiens et les sorciers et les fornicateurs et les menteurs et les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ici encore, vous voyez, le discernement qui se fait entre ceux qui sont inscrits sur le livre de vie et ceux qui ne sont pas. Et donc, on voit très bien, dans mon point de vue théologique, la grande lumière de la prédestination et les autres. La fois prochaine, on verra le mystère au point de vue de la prédestination, alors au point de vue théologique. Parce que, au fond, ça appelle ça directement. Je ne veux pas maintenant, hein, c'est trop complexe le mystère de la prédestination. Mais c'est très important, au moins de l'avoir entendu une fois dans sa vie. La grande vision de saint Thomas, la grande vision de saint Thomas qui est très belle, parce que après ça a été plus ou moins abîmé. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester cela au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton et la race de David, l'étoile resplendissante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entende dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et je l'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, qui sont décrites dans ce livre. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Vous voyez, ça a du souffle, hein. Alors, il reste quelque chose de très important à bien saisir. Je crois qu'on pourra le saisir la fois prochaine. Alors, on se mettra d'un point de vue plus théologique. Comment l'Apocalypse nous montre le point de vue ultime de la recréation de tout? Alors, comment pouvons-nous saisir cela? Deuxièmement, cette chose qui est tellement forte et sur laquelle on insiste tellement, le point de vue de la prédestination. Je ne dis pas de la réprobation, mais on en dira quand même un petit mot. Parce qu'il faut bien comprendre la position de Calvin, qui est une reprise de ce que saint Thomas dit à propos de la réprobation. Et puis alors on essaiera de revenir sur ce petit passage que nous avons vu tout à l'heure, qui est si difficile. Les 1000 ans de Satan. Parce que ça, c'est très difficile. Pour moi, c'est la chose la plus difficile. Les 1000 ans de Satan. Alors, si c'est le mystère de l'Immaculée Conception, je dis ça, si c'est le mystère, c'est une hypothèse. C'est beau. c'est même très éclairant. Ça arrive au terme. Voyez ? Alors, est-ce que ça indique ce fait que ce mystère de l'Immaculée Conception qui nous est réservé, ça nous est réservé, le mystère de l'Immaculée Conception, quand on pense qu'il a fallu presque 2000 ans pour que l'Église le proclame. Donc nous sommes les petits benjamins qui avons ce privilège-là. Vous savez que certains experts du Concile avaient demandé au début du Concile que ces trois derniers dogmes, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité et l'Assomption. Parce que c'est Marie qui enveloppe Pierre, hein, faut pas l'oublier. C'est le grand signe dans le ciel où Marie enveloppe Pierre. L'Immaculée Conception et l'Assomption, et puis Pierre au milieu. C'est pour ça que quand j'ai vu Pierre, notre pape actuel, être pape, j'ai dit c'est merveilleux. Ça, c'est ce qui était montré dans le ciel qui se trouve sur la terre. Parce que le pape est lié à Marie d'une manière unique, comme pas un pape ne l'a été. Et l'infaillibilité est enveloppée par Marie. Pierre est enveloppé par Marie. Et je crois qu'on arrive à cette chose qui est très importante pour nous, que si nous rejetons un peu Marie, nous n'acceptons plus l'infaillibilité de Pierre. Il y a une petite tentation permanente de ne plus accepter l'infaillibilité de Pierre. Et un peu de se prendre dans l'attitude des églises orientales ou de l'église protestante. Vous voyez ? La manière dont beaucoup en France regardent Pierre. C'est si on pouvait, hein, ne pas tenir compte de ce qu'il dit, on le ferait tout de suite. Le pape a été comme inspiré par l'Esprit Saint et par Marie, j'en suis sûr, de faire ses voyages pour atteindre le peuple directement et avoir par le fait même ce lien direct pour l'unité de l'Église et maintenir ce mystère de l'unité de l'Église, parce qu'il faut bien voir que beaucoup d'évêques n'aiment pas tellement ces voyages parce que ça passe au-dessus, quoi. Oui, ça passe au-dessus, directement au-dessus d'eux. Alors on voit bien que c'est pour eux, ça les gêne. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Alors évidemment, il est quand même bien reçu, parce que ça pourrait ne pas être reçu, mais il n'est pas écouté. On ne reprend pas ce qu'il dit. Et ça, c'est important de le saisir. Alors, moi, je crois qu'il y a quelque chose de très très important à saisir pour nous. Vous voyez, ça me frappe beaucoup. C'est au chapitre 20 qu'est Milan. Et c'est Gog et Magog. Et alors, comprenons bien l'Apocalypse. Hein. L'Apocalypse, ça vous donne après comme un petit appendice. Hein. Chapitre 20, c'est comme un petit appendice. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on avait vu avant, qui était le grand combat, le Christ armé pour le combat, c'était tout ça. Alors, est-ce que nous ne devons pas l'interpréter comme ça? Il y a ce grand combat qu'on a saisi. Et au cœur de ce combat, il y a quelque chose d'infaillible. Il y a quelque chose qui demeure. L'infaillibilité, les 1000 ans, c'est Marie et c'est le pape. Vous voyez bien. Quelle est celle qui a été la première infaillible? C'est Marie. Et c'est Marie qui représente, en raison de son Immaculée Conception, c'est Marie qui est la tradition. C'est elle qui est la tradition chrétienne, catholique, a commencé avec Marie. Si je supprime Marie, il n'y a plus de tradition. Si je supprime Marie, l'infaillibilité du pape, pourquoi? Parce que c'est Marie qui est la source de l'infaillibilité. Je crois. Alors, les 1000 ans, c'est Marie et le pape, l'infaillibilité. Vous voyez ? Et ça arrive au terme. pour qu'au milieu du combat, nous ayons une lumière qui reste. Vous voyez, s'il n'y avait pas la proclamation d'infaillibilité du Saint-Père, hein, on serait dans le beau drap. L'Esprit Saint a donné ça au moment où c'était absolument nécessaire pour les dernières luttes. Parce que plus les luttes sont fortes, hein, plus il faut l'unité de commandement. C'est absolument nécessaire. Quand les luttes sont très fortes, quand il n'y a pas d'unité de commandement, c'est fichu. On perd du temps. Et l'Esprit Saint a voulu que ces trois derniers dogmes soient donnés comme ça, hein, en dernier. Il vous dit, pendant le concile, au début du concile, certains experts voulaient que les trois derniers dogmes soient relativisés, et comme on disait méchamment, qu'ils soient des mini-dogmes. Parce que tout simplement, c'était au moment de la mode. Alors c'était les mini-dogmes, pour que de fait, on puisse les relativiser en considérant que l'Église catholique les a prononcés, indépendamment de l'Église orthodoxe, indépendamment de l'Église protestante. Comme si l'Église catholique ne pouvait plus être conduite par l'Esprit Saint et proclamer des dogmes toute seule.
C'était Kungar qui proposait ça.
Je me tais.
Mon père, à propos du texte, est-ce qu'il y a deux personnages qui parlent à la fin, ou c'est le même? Parce que c'est curieux. D'un côté, ne te prosterne pas. Et puis de l'autre côté,
l'ange, attendez. Hein. C'est l'ange. Il y a Jean, attention. Ah oui, mais c'est constamment comme ça.
Sujet.
Attention. Vous voyez? Et c'est moi, Jean, qui entendais et voyais cela. Et lorsque j'eus entendu et vu, je tombai pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait cela. Alors l'ange qui me montrait cela, est-ce que c'est Marie?
Et tout de suite après, il y a quelqu'un d'autre.
Attention. Non. Et il me dit, c'est l'ange qui me dit, il me dit, garde-t'en bien, je suis un esclave comme toi et tes frères, les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre, devant Dieu, prosterne-toi.
Et qui dit tout de suite après, j'ai pas le texte.
Alors après, il me dit, ne scelle pas les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Donc ne scelle pas les paroles. Donc, c'est-à-dire, il s'agit de les révéler. Il s'agit de les communiquer. Car le temps est proche que l'injuste pratique l'injustice encore, et que le sale se salisse encore, et que le juste pratique la justice encore, et que le saint se sanctifie encore. Voici que je viens bientôt, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon qui est son dit. Je suis l'alpha et l'oméga,
bon,
le premier.
Là, on a l'impression que c'est le même.
Oui, tout à fait. Et il me dit, oui, c'est tout à fait ça. Et il me dit, il y a une coupure et il n'y a pas de précision.
N'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ce n'est plus l'ange. Tout à fait. Ah, c'est pas seulement l'impression, c'est la réalité. Et il me dit, vous voyez, alors il y a simplement ça. Et il me dit, je ne sais pas quoi, comment la Bible de Jérusalem dit. Non, c'est pas gênant, parce que venant le contenu, on le voit tout de suite. Vous voyez, on voit le rôle de l'ange, qui est second, et puis le rôle direct de Jésus. Vous voyez, exactement comme au début, hein, ça reprend le début. Ça reprend le début de l'Apocalypse. Hein. Alors c'est pour ça que je dis ça. Il y a quand même quelque chose qui est très proche de ce qui est donné tout à fait au début. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Il l'a signifié par l'envoi de son ange. Alors je crois que c'est Marie, reine des prophètes. À son esclave Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche.
Est-ce qu'il y a des interprétations de visions de mystiques récentes, mettons Jean-Maria d'Agreda? Est-ce que ça existe?
Non, je ne crois pas, je ne connais pas. Je ne connais pas s'il y en a eu, je crois pas. S'il y en avait eu, je me serais jeté dessus. Je crois pas.
Catherine et Moïse.
Oui, oui, oui. Il y a très peu, même les pères de l'Église, il y a très peu de pères de l'Église qui ont interprété d'un bout à l'autre l'Apocalypse. Il n'y a pas de commentaire de l'Apocalypse. Ils s'en servent, on s'en sert tout le temps, mais de commentaires. Chez les Grecs aussi. C'est un livre qui est resté caché, révélé, pour nous. C'est très curieux. Enfin, aucun traité de l'Église ne se sert de l'Apocalypse comme lumière pour montrer l'Église en lutte. Tout ça invraisemblable.
Par contre, c'est une mine de citations littéraires. Le camp des saints, l'arbre de vie.
Tout, tout, tout.
C'est une mine.
Absolument. Absolument. Au point de vue symbolique chrétien, c'est merveilleux. Oui. Et ça chevauche avec le mythe. Hein. Symbolique et mythe. C'est ce qui doit arriver. Et là, moi, je crois que c'est ça qui serait intéressant à faire. Vous voyez, ce serait des coupes. Je dis toujours que c'est des coupes histologiques, comme des coupes histologiques du tissu de l'Église, dans la lumière de l'Esprit Saint. Alors, tout d'un coup, une grande lumière, et là on voit le tissu de l'Église. C'est le tissu de l'Église militante qui est donné dans l'Apocalypse.
Quand vous dites que l'ange, c'est la Sainte Vierge, vous voulez dire que
ah, je le donne ça comme interprétation, étant donné que...
Non, mais ça serait une vision extérieure, ou bien ce serait la Sainte Vierge qui explique ça, Saint-Jean, gentiment.
Oui, c'est gentiment. Gentiment, toujours.
Parce non, que... mais directement.
Directement, c'est directement. Ça, vous voyez, je dis, parce que dans l'évangile de Jean, Jésus, c'est l'envoyé. Toujours, l'envoyé du Père. Angelos. Or, on traduit toujours dans l'Apocalypse ange. Angelos, on devrait dire envoyé. Ce serait le style johannique. Donc, l'envoyé. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il peut envoyer à Jean? Il lui a donné Marie à la croix. Ne croyez pas qu'il lui donne Marie pour qu'il puisse supporter cet apocalypse. Et que l'apocalypse nous est donné à travers la médiation de la Sainte Vierge, reine des prophètes. On dit reine des prophètes et on n'attribue pas beaucoup de révélations à Marie. Alors ça explique toutes les révélations, toutes les apparitions de Marie, parce qu'elle est envoyée pour les derniers temps. Elle est celle des derniers temps. Vous voyez ? Alors ça rend bien plus intelligible tout ça. Et on voit très bien comment on la rejette. Toutes ces apparitions mariales, on ne les accepte plus. Les évêques ont très peur. Ils ont une frousse intense. S'ils lisaient plus l'Apocalypse, s'ils comprenaient mieux que Marie est là pour interpréter, alors ça devient beaucoup plus intelligible. Vous voyez ? Et pour moi, c'est net. C'est le livre de Marie, l'Apocalypse. C'est le livre de Marie à ses petits-enfants, parce que c'est pas drôle de vivre des choses comme ça. Hein. Pas quand même, c'est difficile, hein. De voir à ses pieds l'abîme de soufre avec tous les pauvres types qui vont dedans, c'est pas commode. Et au fond, Marie nous apprend à regarder tout ça, tout simplement, essayer de comprendre. Alors elle ne comprend pas tout. Marie ne veut pas nous donner une... Mais Marie nous éclaire. Moi, ça a été la grande lumière. Une fois que j'ai compris que Marie était là, j'ai dit, ah bon, on peut y aller. Parce que si Marie est là, si on vous disait ça, c'est pas... Un... C'est bien, parce que c'est merveilleux. Il l'a signifié par l'envoi de son ange, par l'envoi de son envoyé, à son esclave Jean. Alors vous voyez, nous lisons l'Apocalypse d'une façon historique. Alors on met les choses après. Si on ne lit pas ça, puisque tout est commandé par le bientôt. Tout est commandé par le bientôt. C'est le mot clé. L'Apocalypse, c'est le bientôt de Dieu pour nous. Alors, à ce moment-là, on est en dehors de l'histoire, on est dans le bientôt. Et bien, dans le bientôt, il y a des zones différentes. Et la dernière zone, qui est peut-être la plus secrète, et qui est peut-être le grand secret de l'Apocalypse, c'est les 1000 ans. Moi, j'arriverai à dire ça. C'est les 1000 ans. c'est le lieu où le démon ne touche rien. Il y a un lieu secret dans l'Église. C'est merveilleux, où le démon ne peut rien. Alors on a toujours interprété ça selon une perspective historique. Tous les historiens sont rués, Nostradamus, n'est-ce pas ? On s'est rué là-dessus pour interpréter de façon pas du tout. C'est donné aux petits.
C'est là encore qu'intervient Marie.
Oui.
Qui est vraiment le...
Pour Nostradamus.
Sur lequel le démon s'acharne toujours.
Oui, toujours.
Avec la gauche.
Oui, toujours.
Et la femme à travers Marie en ce moment.
Oui, à travers Marie. Sûrement. Le mystère des fécondités.
Voilà. C'est...